la pianiste du jazz.
Hier et aujourd'hui.
Laurent Verdot.
Pascal Verdot.
Un morceau qui me donne beaucoup de souvenirs dans les rues d'Antibes.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Eh bien, chers auditeurs et amis du jazz, vous avez deviné qu'on va encore aujourd'hui parler de Sidney Bechet.
Oui, c'est ce morceau qu'on a entendu dans les rues d'Antibes.
Ouais.
Je sais, Je crois bien que c'est un des morceaux les plus célèbres de Béchette. Célèbre à un niveau qui était d'abord français, puisque ça se passait en France. Mais je pense que c'est un des morceaux les plus connus. De notre époque, c'était même des gens pas spécialistes de jazz connaissaient dans les rues d'Antibes.
Ah ben, on est dans la musique populaire totalement. Et à l'époque, le jazz était une musique populaire. Et naturellement, c'est bien dommage que ça ait changé. Enfin, il y a eu beaucoup de... Il y a beaucoup à dire là-dessus, on ne le dira pas aujourd'hui. Restons joyeux. Et effectivement, il y a eu plusieurs standards qui ont... D'ailleurs, ils sont vendus par... au moins à plus d'un million. Enfin, c'était un succès absolument colossal. Et dans les rues d'Antibes, se joue toujours. Il y a des tas d'orchestres qui jouent dans la rue d'Antibes. Et dès qu'on commence ce morceau, on l'entend dans le public.
Ah. Mais c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, ce morceau, il commence comme une fanfare.
Ah, mais absolument.
C'est une fanfare. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la fanfare, finalement, même encore actuellement, c'est une des formes d'expression de la musique populaire européenne, les fanfares.
Absolument.
Et alors, c'est amusant.
Ça vient du brass band, de tout droit.
Tout à fait. Ça commence vraiment à la fanfare. Et puis, tout d'un coup, il y a un déchaînement. Et puis, ça devient, franchement, complètement du jazz.
Voilà, exactement. Il y a pas mal d'exemples de ce genre de... De ce genre de possibilités. Je pense à Willie Smith le Lion jouant la Madelon, à Kid Urie jouant une marche militaire et puis la jazzifiant. En fait, le jazz a beaucoup jazzifié les morceaux de fanfare.
Et ça, c'est un bon exemple.
Ah oui, tout à fait. Alors, la dernière fois que nous avons parlé de Béchet, c'est-à-dire il y a 8 jours, on se souvient qu'il a commencé à la clarinette à l'âge de 6 ans. Par piquer l'instrument de son frère Léonard.
En cachette.
Et que quand le Léonard a entendu ce que faisait son petit frère, il est tellement écœuré qu'il lui a donné la clarinette et il a arrêté la musique. En fait, c'est pas vrai, Léonard a continué la musique, mais il a donné la clarinette à son petit frère quand même.
Ah oui, c'était plutôt sympathique. Impressionné par les dons du petit garçon.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on va donc maintenant ouvrir cette émission avec plusieurs morceaux de Béchet à la clarinette. Et on dira jamais assez que c'est un des plus grands clarinettistes de jazz, mais un des 2 ou 3 meilleurs, aux côtés des grands noms de la Nouvelle-Orléans, Johnny Dodds ou Jimmy Noon, il y a Béchet. Et Béchet, c'est un style original, plutôt rappeux et agressif. On sent très bien le bois de l'instrument, donc c'est de la bonne clarinette. Et puis alors, on ne peut pas faire plus Nouvelle-Orléans que cette clarinette-là, c'est sûr. Et le premier échantillon qu'on va en donner se passe à New York en 1938, sous la férule, ou la houlette, ou la schlag, comme on voudra, ça dépend là des moments.
De qui? De
Hugues Panassier.
Ah, Hugues Panassier.
Voilà, venu à New York en 1938, je te signale qu'il avait à l'époque 26 ans, il avait donc...
C'était encore, tout ce petit monde-là était bien jeune. Hein.
C'était quand même tous des jeunes gens. Il venait de fonder avec Charles Delaunay la marque Swing, et il venait en Amérique enregistrer des musiciens jouant le style Nouvelle-Orléans pour la marque Swing.
Mais on n'avait jamais fait ça avant.
Non.
C'est-à-dire qu'aucun Européen ne s'était intéressé au point de faire des disques avec des Noirs. Ça, il n'y avait pas d'Américains qui s'y étaient intéressés. Il n'y avait pas d'Anglais.
Les Anglais, ils s'intéressaient quand les gens passaient par chez eux. Évidemment, les Français aussi.
Mais aller sur place.
Il faut bien dire que le jazz était confiné dans la production pour noir, de disques pour noir pendant très longtemps. Et que, comme disait Willie Smith le Lion, Hugues Panassier, c'est le type qui a appris aux Américains qu'il y avait chez eux une musique leur appartenant en propre, alors qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes, et que les musiciens qui la pratiquaient, tout le monde s'en moquait. Enfin, ou plutôt s'en.
Pour eux, c'était naturel.
On était indifférents.
Oui,
voilà. C'était un truc un peu pittoré dans un coin, alors que cette musique était en train de devenir planétaire sans que les Américains en prennent bien conscience. Et Panassier, avec un livre célèbre...
Même les Noirs,
ils étaient entre eux. Ils avaient Et dans un livre célèbre qu'il a écrit quand il avait une vingtaine d'années, qui s'appelait Le Jazzote, Panassier a commencé à prendre des repères et à faire comprendre à tout le monde qu'il y avait quelque chose là-dessous. Donc il a été un grand précurseur et un grand détonateur d'événements également. Et ça, c'est un événement de se dire « Nouvelle-Orléans, on n'en entend plus, pourtant ça existe, je vais aller en Amérique pour l'enregistrer parce que les Américains ne le font pas ». Voilà.
Ah oui.
Alors ça nous donne l'occasion, mais on reviendra sur ce qui s'est appelé finalement les Panassier Sessions. On reviendra dessus parce que Béchet a beaucoup enregistré à cette époque-là pour Panassier. Et en attendant, on va l'entendre à clarinette. dans un morceau tiré de cette série-là. Et ce morceau s'appelle Weary Blues. C'est un standard bien
connu. Avec Tommy Ladnier.
Voilà. Et il y a le
trompettiste.
De la Nouvelle-Orléans. Alors, on ne peut pas faire mieux, du point de vue de Nouvelle-Orléans, que ce cher Tommy Ladnier. Et ça s'appelle Weary Blues. Voilà, on ne peut pas faire plus Nouvelle-Orléans que ça. Alors, il faut dire que l'enregistrement du trompettiste a été un peu loupé. Il est un peu terne, là, alors que c'était un son assez flamboyant.
Ah, oui.
On le sait, parce qu'on a d'autres enregistrements d'une époque à peu près voisine de Tommy Ladnier, puis on en a d'autres plus anciens. Mais là, peu importe, c'est Nouvelle-Orléans. On entend très bien le bêcher clarinettiste, qui est tout à fait extraordinaire. Là. C'est
oui,
vraiment de la clarinette. Hein.
Et c'est bizarre, parce que quand on connaît son saxo-soprano... C'est franchement un peu différent hein, comme style.
Ah bah tout à fait. Mais d'ailleurs, il a un style également assez accrocheur au soprano, mais le soprano est un instrument qui est plus joli. Alors donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'y est un petit peu attaché. Et là, les compositions qu'il a faites montrent qu'elles ne sont pas du tout pour clarinette, sauf exception. Mais nous allons naturellement avoir une exception.
Ça, c'est comme évident. De juste.
Alors on le retrouve à la clarinette avec Earl Hines. Au piano, en trio. Il y a juste piano et batteur. Donc on entend
ah oui,
bien,
là, on va l'entendre très, très bien.
Tout ce qui se passe. Et Earl Hines est un formidable accompagnateur, comme on va pouvoir le voir.
Ah oui, c'est quelqu'un qui était assez... qui avait une aura vraiment importante. Peut-être pas égale à celle d'Armstrong, mais importante quand même.
Presque égale, parce que Earl Hines, c'est le pianiste qui a eu le plus d'influence sur les pianistes. Autant que Louis Armstrong sur l'ensemble des musiciens. Il était venu à Chicago dans les années 20. Il avait joué avec Jimmy Noon, donc il connaissait déjà bien le Nouvelle-Orléans. Mais lui, il est de Pittsburgh, je crois. Enfin, il n'est pas du tout de là-bas.
Il n'est pas du sud.
Mais il s'y est très bien fait et il a trouvé son style. Et puis il a rencontré Armstrong et ils ont fait en 1928 une série de disques qui est restée absolument...
Légendaire.
C'est même une série extraordinaire. Et là, il s'est mis à jouer du piano, comme Armstrong joue de la trompette, à tel point qu'on l'a appelé piano-trompette, et que quand on entend du Earlines un peu confusément à travers plusieurs portes dans un endroit où quelqu'un en joue, mais qu'on est encore dans la cage d'escalier, on croit que c'est Armstrong qui joue, quand on n'entend que la musique sans savoir bien le timbre. C'est très très proche. Donc il est totalement compatible avec le Nouvelle-Orléans, Earlines, et là... En plus, il y a un des plus grands batteurs de...
Ah oui, Baby Dots.
Baby Dots, le petit frère de Johnny Dots. Il y avait Zooty Singleton, qu'on vient d'entendre dans le morceau précédent. Et l'autre grand de la batterie de Nouvelle-Orléans, l'autre star, c'est Baby Dots. Alors ça s'appelle évidemment Blue Inserts. Alors c'est une astuce, à la fois parce qu'on y joue des tierces d'accompagnement, et parce qu'ils sont trois, évidemment. Bon, et voilà. Et ce Blue Insert, en réalité, c'est un truc qui s'appelle Cushion Blues, si mes souvenirs sont bons.
Il y a un son quand même assez volumineux dans cette clarinette.
Mais on entend toujours le bois, parce qu'il y a tellement de clarinettistes qui jouent comme s'ils jouaient dans un pipeau en plastique, qu'on reconnaît les grands avec le fait qu'ils sonnent comme du bois. En France, on en a plusieurs qui sont vraiment très bons. Si vous voyez passer Guy Champem ou Alain Marquet, avant il y avait Johnny Telmez, mais qui a malheureusement arrêté. Mais enfin, les deux que je viens de citer, Alain Marquet, Guy Champem, c'est des types... Il joue d'un instrument en bois. Et ça c'est quand même très important parce que il y a toute une école de clarinettistes qui jouent très dur et qui jouent moche finalement par rapport à l'instrument. Les clarinettistes Nouvelle-Orléans, ils ont su montrer qu'ils jouaient dans un instrument en bois et c'est un de leurs grands caractères. Alors, il n'y a pas que du trio à la clarinette, hein, parce que Nouvelle-Orléans, ça se joue aussi en orchestre.
En grand orchestre ou en petit orchestre, là ?
Oh non, c'est...
Non, la Nouvelle-Orléans, c'est presque toujours, autant que je sache, un orchestre moyen.
Ben, c'est un orchestre qui peut 7, aller...
7, 8 voilà. Personnes.
Mais il y a une transition, quand même, vers le grand orchestre, qui est partie de ce que faisait King Oliver dans les années 20. C'est-à-dire qu'au départ, à Nouvelle-Orléans, il y a une formule qui est trompette, trombone, clarinette en contrepoint. Au tout début, il y a souvent un violon parce que c'est le seul qui sait lire la musique. Donc, quand les nouveaux morceaux arrivent sur le marché, il faut quand même
c'est
les lire.
C'est lui qui va lire la musique
pour
au
moins jouer le morceau, le thème, quoi. Simplement le thème. Parce qu'ils lisent pas la musique, les types. Hein. Ils mettent le thème dans l'oreille, puis après, ils y vont.
Et puis, à l'époque, c'était très à la mode, le violon.
Oui, oui, exactement. Mais enfin, là, on est pareil dans le Cantal. Hein, les types de la même époque, dans le Cantal, ils savent lire la musique. Et avec le violoniste, et encore, bon, vous allez voir la vieille tante pour faire lire la partition au piano, pour se mettre ça dans l'oreille.
Oui,
les nouveaux morceaux.
Ça ne devait pas durer bien longtemps.
En tout cas,
il
c'était comme ça.
Saisir tout de suite.
Et le violoniste est très vite parti en désuétude comme accompagnateur de ce genre d'orchestre parce qu'on n'entendait pas.
Oui.
Bon. On entendait très peu.
Par rapport au vent, c'est vrai que...
Il reviendra que quand on pourra l'entendre correctement. Et donc, avec ça, il y avait une section rythmique qui était généralement de la basse, avant donc tuba ou à cordes, un batteur et un banjoïste ou guitariste. Il faut savoir que le banjo a été utilisé que parce qu'on entendait mieux que la guitare. Dès qu'on a commencé à faire des guitares qu'on entendait mieux, le banjo est tombé en désuétude. Il n'y a plus que maintenant, je ne sais pas pourquoi, en France, tout le monde joue du banjo, parce que ça fait Nouvelle-Orléans, mais ça n'a aucun intérêt
particulier. Oui, parce que et eux devaient estimer que la guitare était plus moelleuse, peut-être d'ailleurs plus volumineuse.
Bien sûr. Non, mais ils sont tout de suite allés sur la guitare, mais ils étaient forcés de prendre le banjo pour se faire entendre mieux. Voilà. C'est la seule raison.
Un banjo, c'est plus volumineux en son.
Voilà, beaucoup plus.
Qu'une guitare.
Beaucoup plus.
Ah bon,
beaucoup
d'accord.
Plus. Et bon, alors, quelquefois, il y avait un piano, mais on ne peut pas défiler avec un piano. Sauf
bien
sur
sûr.
Un camion. Enfin bon, le piano est donc là ou pas là, ça dépend. Donc, tu vois que ça fait 7 personnes.
Oui.
S'il y a un pianiste. Et quelquefois, il y a 2 trompettistes. Généralement, il y a 2 trompettistes, ça fait 8. Et King Oliver a commencé à amplifier la formule en faisant rentrer des saxos. Avec lesquels ils faisaient des très jolis arrangements. Donc les types sont passés à 10, 11 ou 12. Et puis après, c'était le Big Band.
C'est devenu un grand orchestre.
Voilà. Alors. Mais là, on commence à jouer sur partition, sur arrangement. Alors là, on vient en arrière, on est en Nouvelle-Orléans et on ne joue pas sur arrangement. Tous les trucs se font de tête, les riffs, les fonds, les machins, ça se fait de tête. Hein. Et là, l'orchestre en question, c'est donc.
Sydney de Paris.
Un orchestre avec Sydney de Paris. Et c'est un très bel orchestre parce que, d'abord, Dope de Paris est un trompettiste. Très très bon trompettiste, très vigoureux. Vic Dickinson au trombone. Ça, c'est pas des gens de Nouvelle-Orléans. C'est Béchet qui va apporter sa teinte
Nouvelle-Orléans.
Et puis la rythmique, par contre, il y a Pops Foster à la basse, qui est le bassiste Nouvelle-Orléans de référence. Et Manzi Johnson à la batterie, qui était très compatible. Tous ces gens-là, évidemment, ils sont compatibles. Et on entend bien Béchet à la clarinette dans ce morceau. Et ce morceau s'appelle Blue Horizon.
Thank you.
n'a pas résisté, hein, parce que on n'entendait pas beaucoup l'orchestre dans le premier morceau, donc on a passé ce Scène plus Blues qui va de même séance, et qui montre à quel point les musiciens qui ne sont pas de Nouvelle-Orléans sont quand même compatibles avec ce style-là, hein, souvent, parce que là... on sent bien, tout le monde est extrêmement détendu. Hein.
Oui, il y a un style qui est détendu, mais en même temps, ce n'est pas mou du tout. Hein. C'est vraiment
un
style, je ne sais pas si le terme lazy est exact, mais c'est un style qui permet, en même temps, il y a une sorte de grande douceur et...
Ouais.
Et c'est quand même très swingant. Hein.
C'est bien vrai. Nouvelle-Orléans, c'est comme ça. D'abord, ça se joue au fond des temps, c'est-à-dire un peu paresseux, mais jamais mou. Et c'est très détendu. Et puis, les gens, ils savent vraiment jouer. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Hein. Et voilà.
Mais justement, est-ce que Sidney Bechet était quelqu'un qui travaillait beaucoup?
Ben, je crois que...
Techniquement, j'entends. Est-ce qu'il répétait beaucoup? Est-ce qu'il travaillait beaucoup?
Ben, c'est pas difficile. On joue pas de la clarinette comme ça. Sans énormément travailler. Clarinette, c'est un instrument très exigeant.
Même si on est très doué.
Ah oui, oui, oui. De toute façon, il y a des instruments qui ne demandent pas trop de travail, surtout de la gymnastique pour que les lèvres, par exemple, pour la trompette, soient en bon état. Si on a, si on a une technique honorable à la trompette, on peut faire beaucoup plus d'effets que la clarinette. Clarinette, là, ça rigole pas. Il y a des doigts qui bougent très vite. Hein, c'est comme le piano. Et il faut vraiment beaucoup travailler le délié des doigts. Et donc, il y a des exercices pour ça, les exercices officiels, je dirais, pour apprendre la clarinette dans n'importe quelle école de musique. Mais naturellement, Bechet avait les siens.
Ah bon?
Oui, oui, oui. Et même,
il s'était créé les siens.
Ah oui, oui. Et même, il les a mis en musique.
Ah bon?
Oui, 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 oui. Alors, il y a un morceau très amusant qui s'appelle Moulin à café, puis ça mouline des exercices. Ça mouline un exercice, finalement. Évidemment, c'est devenu un exercice obligatoire pour tous les types qui font de la clarinette Nouvelle-Orléans en France. Et tout le monde le connaît, ce morceau. Mais le challenge, c'est de savoir le jouer sans s'emmêler les doigts. Et là, c'est pas facile.
Ah oui,
j'en connais plus d'un qui s'y est cassé le nez.
C'est un exercice technique, alors.
Ah oui, c'est un exercice technique. Alors, directement, ils en ont fait un morceau de musique, puisque, comme Bechet avait bien la jolie musique, l'exercice, c'est aussi de la jolie musique. Et donc, il a appelé ça Moulin à café. Et il a enregistré avec l'orchestre de Claude Luther, ça, pour faire un petit peu un gag dans un studio.
Claude Luther, c'est des petits Français, ça.
Ah oui, tout à fait. C'est l'orchestre qui était l'accompagnateur attitré de Bechet. C'est ceux qui jouent avec lui dans les rues d'Antibes qui a commencé l'émission.
Et est-ce que c'est ceux qui jouent à Saint-Germain-des-Prés?
Oui, pareil. C'est
dans
ceux
les caves et
ouais,
tout ça, ouais, dont ouais. On a tellement parlé.
Exactement. Et c'est ceux qu'on peut voir dans les rendez-vous de juillet de Jacques Becker, tourné en 1947.
D'accord, oui, oui.
Par exemple. Un film à ne pas manquer pour l'ambiance qui y règne, parce que vraiment, c'est l'ambiance musicale aussi, c'est tout à fait ça. Et en plus, certains des acteurs avaient appris à jouer de la musique pour ce film-là. Un petit peu, hein. Donc, Maurice René a pris la trompette hein, pour jouer ça.
Ah, pour pouvoir jouer.
Ah, absolument.
Il a appris
il
un
a pris
minimum
le cornet.
De...
Ah, mais un minimum, oui. Et
ah
comme
bon
ça, il n'a pas besoin d'être doublé. Il joue, il tient son truc et
ah
il
bon
a l'air de jouer de la trompette. Voilà. Ah. Mais Richard Gere en a fait autant quand il a tourné Cotton Club. Hein. C'est des gens qui... Les acteurs sont souvent des gens consciencieux et très doués. Voilà.
Oui,
alors, pour en venir
pense
à Moulin à café, eh bien, il n'a jamais été réédité, à ma connaissance. Et, enfin, la version qu'on va entendre là, et qui est la meilleure... Donc, c'est à 78 tours. Alors, vous nous excuserez, chers auditeurs, ça gratouille un peu, surtout qu'il est un peu servi. Mais enfin, ce moulin à café, il mouline gentiment. Le voilà. Voilà l'exercice.
Ah, formidable.
Un moulin à café. Hein,
ah oui. Hein, et voilà. Et on arrive à faire d'une chose très, très mécanique quelque chose qui est extrêmement joli.
Ah ben ça, c'est tout l'art de Nouvelle-Orléans.
Et c'est un style, le Nouvelle-Orléans, finalement, c'est vraiment le creuset, la base, le berceau du jazz. Et ça a essaimé. Est-ce que ce Nouvelle-Orléans, il est sorti de la zone New Orleans proprement dite, ou est-ce qu'il a été ailleurs, ou est-ce qu'il est resté là-bas?
Tout ça en même temps, parce qu'actuellement il y a encore des gens là-bas, Nouvelle-Orléans,
qui en jouent.
Ils ont été victimes du fameux cyclone, hein, ils ont un peu été éparpillés, mais ils commencent à revenir, et ce sont tous des gens qui ont l'accent du coin.
Du terroir.
Hein, mais il n'y a pas de musiciens équivalents à ceux qu'on entend là, même s'il y en a qui ont vraiment beaucoup de talent, comme Michael White à la clarinette.
Et est-ce qu'on les connaît
celui-là. Mais non, on ne les connaît pas, parce que le jazz, malheureusement, peu à peu, à force d'être dévoyé dans les médias, a vu son nom recouvrir tellement de choses bizarres et emmerdantes que le public s'en est détourné.
Oui, c'est un peu une forme un peu américaine de dire on passe à autre chose.
Comme beaucoup
de peuples peut-être. Très très jeunes, peut-être qu'au fond, ils ne regardent pas tellement leur passé, c'est l'avenir qui compte.
Oui, je le dis pas.
Et de ce fait, peut-être, c'est une hypothèse, on est passé à autre chose, on est passé à des styles complètement différents, et puis maintenant, même le rap maintenant commence à être un peu dépassé, etc.
Oui, mais
donc c'est un clou chasse l'autre.
Pour moi, ce n'est pas une bonne conception des choses. Il n'y a aucune raison qu'un nouveau clou chasse automatiquement l'ancien.
Oui.
D'ailleurs, quand on fait du Nouvelle-Orléans au coin de n'importe quelle rue, de n'importe quel endroit, il y a tout de suite 50 personnes autour. C'est une musique qui parle aux gens. Ouais. Mais pour qu'elle parle, il faut qu'on l'entende. Et la Radio Margeride est un des très rares postes de radio, des très rarissimes stations où on peut entendre un peu de musique comme ça.
Hein, nous les félicitons.
Voilà, merci monsieur.
Merci monsieur Viala de permettre qu'il y ait une voix de Nouvelle-Orléans qui s'exprime en Lozère, dans le Cantal.
Il y en a d'autres, il y a une radio célèbre qui s'appelle Swing FM, qui est à Limoges. Qu'on peut maintenant entendre sur Internet, c'est une radio extraordinaire. Il y a du jazz 24 heures sur 24. Hein, ça n'arrête jamais. Et là, quand même, bon. Alors, le Nouvelle-Orléans, eh ben, il a voyagé avec ses propres musiciens, c'est-à-dire qu'ils ont emporté leur musique à la semelle de leurs souliers, comme disait Danton.
Et ils sont allés
où ? On peut le faire. Ils sont allés où il y avait de l'argent.
Ah oui, la Nouvelle-Orléans étant un pays relativement agricole, il y avait moins d'argent que...
C'est pas tout à fait ça. La Nouvelle-Orléans, elle a quand même eu une certaine baisse de régime à partir d'un certain moment, parce que les forces vives de la nation, à la faveur de la guerre de 14 en particulier, sont déplacées vers le nord, vers les industries.
Vers les industries.
Tu as raison de dire que c'est agricole et que l'industrie a commencé à prendre le pas.
Oui, parce qu'on ne peut pas dire qu'en Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans, il y avait vraiment autre chose que du coton, de l'agriculture, des tissus, des choses comme ça.
Mais il y avait une vie culturelle énorme. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et de l'argent, il y en avait quand même de moins en moins. Et les types, les meilleurs, ceux qui avaient d'abord une certaine qualité hormonale, comme on dit en rugby, ils ont pris le bateau pour aller vers le nord, là où ça se passait, où il y avait en plus le racisme.
Pourquoi tu dis le bateau ?
Parce que le Mississippi a servi d'axe de migration.
Ils remontaient vers le Mississippi.
Oui, puis ils travaillaient sur les bateaux, les types. Alors, il y a eu des foyers tout du long du Mississippi. Il y en a eu, ça a pris le blues au passage, parce que dans le delta du Mississippi, qui n'est pas le delta fleuve, mais le delta région, dans le Mississippi, il y a beaucoup de chanteurs de blues qui ont commencé à migrer vers le Tennessee, etc. Et tout ce petit monde s'est retrouvé à Chicago, où il y avait vraiment du fric et du boulot. Et un énorme public autour.
Oui, parce que, si je comprends bien, ce n'était pas forcément des musiciens professionnels. Ils avaient quelquefois double casquette.
Tout à fait. Mais là, ils sont devenus...
C'est-à-dire ils pouvaient aussi bien être ouvriers ou autre chose et pratiquer leur musique pour compléter.
Exactement. Mais
devenant peut-être professionnel après.
Ben justement, à Chicago, il y avait tellement de boulot qu'ils sont devenus pros, tous là.
Ah oui.
Voilà.
Ah
et c'est ça qui les a aussi intéressés. Après quoi, Chicago s'est un peu éteint au point de vue culturel et New York a attiré tout le monde dans le showbiz. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter, à mon avis. Parce que le showbiz, ça devient du commerce. Et on commence à voir apparaître des formes commerciales. Et là, ça, c'est pas terrible. Mais pour en venir au Nouvelle-Orléans, évidemment, comme tout le monde, la crise de 1929 l'a foutu sur le fond.
Ah oui, la crise économique.
Voilà.
Le jeudi noir, etc.
Il ne s'est pas passé grand-chose en musique à cette époque-là.
C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, Pour ceux qui, par hasard, connaîtraient pas la crise de 1929, ça a été une crise économique effroyable en Amérique même en Europe. Ça a touché l'Europe.
Quelques années plus tard.
Mais par contre, en Amérique, tout le monde, enfin une quantité énorme de personnes s'est retrouvée au chômage.
Absolument, et naturellement,
évidemment sans assurance.
Les plus basiques, beaucoup plus que les autres.
Alors et là, oui. on était. Donc les Noirs étaient plus.
Il y avait 3 km de queue aux soupes populaires, et les Noirs ont été naturellement extrêmement
et
touchés.
Et de ce fait, pas d'argent, pas de musique.
Ils ont arrêté la musique souvent. Hein. Il y en a qui ont fait des petits boulots. Bon. Et puis, un jour, il y a eu, en 1932, il y a eu une sorte de fenêtre qui s'est ouverte.
La crise s'est arrêtée
non,
un peu.
Non, pas du tout. Non. Mais. Il y a eu une fenêtre.
Une éclaircie.
Et une éclaircie fugitive dans laquelle se sont précipités Sidney Bechet et Tommy Lanier, qu'on a tout à l'heure. Et on sent qu'ils sont tellement heureux de jouer que ça explose dans leur musique. Là, ça s'entend, on va entendre 2 morceaux
Parce
à
que
la
ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de disque.
C'était très dit. Oui, ils étaient heureux, là. Hein. Ça,
ah
ça,
oui.
ça,
c'est
ça s'entend.
Comme des affamés.
Ah oui, mais exactement, ils se précipitent dessus. Il y a donc Lanier et Bechet, et puis ils ont pris les types qu'il y avait sur place pour les accompagner. Je pense que c'est eux qui ont eu la séance.
Et ça se passait où?
Ça se passait à New York. Hein,
à New York.
Et il y avait la doublure de Fats Waller, Hank Duncan au piano. Le bassiste Wilson Myers, c'est un batteur qui est resté totalement inconnu après, et un trombone Ditto. Mais les grands hommes du truc, c'est Bechet et Lanier. Alors là, il y a vraiment de la flamme. Ça, c'est des. On dit d'une musique comme ça qu'elle flambe. Ça s'appelle Sweetie Dear et Maple Leaf Rag à la file.
Thank you.
Voilà, hein, ils étaient contents. Hein. Ah, ils étaient contents, là, ça s'entend.
Voilà
hein.
Des gens heureux.
Là. ça s'entend vraiment. Hein.
Oui,
c'était
oui.
C'était tout à fait... Oui.
Mais tu as parlé tout à l'heure d'une fenêtre. Ça s'est arrêté?
Ah oui, tout de suite. Ça a été une sorte de sommerie préalable à un grand réveil. Mais le grand réveil n'a eu lieu que plus tard.
Mais plus tard, beaucoup plus tard?
Ah oui, il a fallu 6 ans hein, pour que le Nouvelle-Orléans recommence à repartir.
Ah bon?
Et le détonateur a justement été la visite de Panassier à New York, dont on a parlé tout à l'heure. Parce que c'est Panassier et ses disques qui ont remis en train depuis l'Europe, et puis peu à peu, ça s'est mis en route.
Pourquoi? Parce qu'en Amérique, à rejouer. Avant que Panassier, un petit Français, n'arrive, il n'y avait rien qui se passait.
Au point de Nouvelle-Orléans, tout le monde s'en foutait. Il était vraiment mort. Alors en 38, il y avait d'autres choses qui se passaient.
Il y avait d'autres jazz.
Ah bien sûr, il y avait d'autres styles.
Là, tu parles uniquement du Nouvelle-Orléans, proprement dit.
Non, mais les choses pour le jazz ont commencé à refonctionner plutôt vers 34, 35, 36. Et puis après, c'est reparti depuis Kansas City, où il y avait un gangstérisme local qui gérait très bien les affaires musicales. C'était un endroit extrêmement prospère, qui avait attiré beaucoup de monde. C'est de là que va sortir Count Basie et tous ses musiciens plus tard, pas plus tard, en 37. Hein. On a commencé à retravailler. Mais par exemple, quelqu'un comme Bessie Smith a fait ses derniers disques en 34. Elle est morte accidentellement, elle enregistrait presque plus.
Elle était classée New Orleans.
Le vieux blues.
Etc. Oui. Ah, oui. C'était plus la mode.
Exactement. Il y a eu un phénomène de mode aussi. Et là, la renaissance du jazz à cette époque-là, après la crise, c'est surtout le fait de ce qu'on appelait l'époque swing, un peu abusivement d'ailleurs, c'est un mot. Parce que tout le jazz swing. Mais ça a été l'époque des grands orchestres qui ont commencé, ce qui marque une prospérité considérable.
Oui.
C'est un retour prospérité qui passe par les élections de Roosevelt également, puisque un des grands, plusieurs orchestres ont joué pour Roosevelt des morceaux dédiés à Roosevelt.
Ah oui.
Oui. Vote for Mr. Rhythm. FDR Jones, enfin il y en a plusieurs comme ça, et en particulier au Savoy, qui était le grand rendez-vous des big bands dans la fin des années 30, ça a été l'orchestre maison roulait pour Roosevelt ouvertement.
Oh, voilà.
Et donc
c'est très américain, mais
oui. Alors quand les choses ont commencé à aller mieux, voilà. Alors le pauvre Béchet, là-dedans, lui, il est allé...
Parce que lui, il était classé, étiqueté New Orleans.
Oh, il faisait ce qu'il pouvait, mais enfin, c'était musique en petite formation, clarinette, saxo, oui, Nouvelle-Orléans. Hein.
Ah oui.
Et vraiment, totalement sous le boisseau. Et après cette séance d'enregistrement qui n'a pas eu de lendemain, Tommy Lanier a totalement sombré dans l'oubli. On le reverra qu'en 38. Il est parti en banlieue donner des leçons de musique dans une école de musique. Hein,
c'est honnête.
Et Béchet, lui, il a tout arrêté. Il a ouvert une boutique de tailleur.
Ah bon?
Oui, exactement.
Oui,
Mais heureusement pour lui, Noble Sissel veillait.
Alors qui est Noble Sissel? C'est un ami, je suppose.
C'est son compagnon de route, je dirais. Ou plutôt, Béchet est un de ses compagnons de route. Noble Sissel, c'était un type qui était spécialisé dans la revue. Il montait des orchestres de revue. C'est lui qui est venu en France pour des revues où Béchet venait dans l'orchestre de Noble Sissel. Donc, il y avait un partenariat assez fidèle entre eux.
Ah oui, parce que les revues étaient très, très à la mode.
Ah oui,
c'était
une des choses.
Et d'ailleurs, même en France, si j'ai bien compris, cette mode américaine a rejailli sur l'Europe.
Ah, tout à fait. Sauf que le professionnalisme des revues américaines est quand même... très évident quand on voit les vieux films, hein, ça c'est sûr.
Ah ouais.
Et là, il y avait des revues noires qui avaient souvent beaucoup de succès, et ça recommençait à revenir à la surface. Et le grand partenaire de Noble Sissel, c'était Hubie Blake, qui était un compositeur, pianiste, etc. Ouais. Et c'était des gens spécialisés revues, et avec des orchestres spécialisés revues. Et ils ont repris le créneau, il a retravaillé avec Béchet, et pour terminer cette émission, on va entendre un morceau dont le titre est intéressant d'ailleurs, mais ça s'appelle Lever de soleil dans le sud. Coucher de soleil dans le sud, pardon.
Oui. Coucher, lever, c'est
non,
pas
non,
grave.
Non, coucher de soleil dans le sud, c'est intéressant parce que toutes les forces vives sont quand même parties du sud à l'époque.
Ah hein. Oui, c'était une sorte de notion.
Mais
de...
on y pense avec nostalgie.
Ouais. Et c'est le vieux pays.
Voilà, exactement. Alors c'est un morceau où Béchet est très en évidence. Et ça s'appelle South on Sunset ou When the Sun Goes Down in the South. Enfin, il y a plusieurs titres. Le voilà, et ben on vous dit à la semaine prochaine, à part ça. Hein, voilà.
À la semaine.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine. Thank you.